podcast. Non siamo risaggi talenti puri di faire la vie. Se triste la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est le nouveau numéro d'Idéaux et Débats qui commence avec aujourd'hui un programme assez exceptionnel puisqu'on va retrouver deux auteurs qu'on chérit particulièrement dans cette émission. C'est des gens que j'aime beaucoup, je dois le dire. La première, il s'agit de Véronique Ovaldé, qu'on retrouve avec vraiment un très très grand bonheur pour un roman qui est paru chez Flammarion et qui s'intitule « Filles en colère sur un banc de pierre ». Et le second, c'est David Thomas, toujours pour ses courtes nouvelles, dans un recueil intitulé « Par tous les autres » aux éditions de l'Olivier. C'est vraiment une grande joie tout ça. On retrouve tout de suite Véronique Ovaldé. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver Véronique Ovaldé, avec une grande fidélité et un grand plaisir de lecture de livre en livre. Ah, quel bonheur! Et celui-là en est un encore. Il s'agit d'un roman qui est paru chez Flammarion et qui a un titre magnifique, puisque ça s'appelle « Fille en colère sur un banc de pierre ». On dirait presque un haïku.
Oui, c'est ça. En tout cas, je suis très contente d'être sur Radio Libertaire avec vous, Alexandrine.
Ben, je vous remercie. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre dont le personnage principal est encore un très beau personnage féminin. C'est Aïda, dont on va parler. Aïda, qui est donc d'une famille de quatre sœurs. Quatre sœurs, c'est une famille d'opéra, puisque toutes les filles ont un prénom d'opéra. On va de Verdi à Puccini, et elles ont un père qui est un double sauveur, et tout ça se passe dans un endroit absolument improbable, mais qui est très important, qui est Yadza. Alors on va commencer par parler, si vous voulez bien, Véronique Ovaldé, de ce lieu, parce que c'est un lieu qui, en lui-même, génère des situations particulières.
Oui, Yadza, c'est une île. C'est une île qui est au sud de la Sicile et qui est dans ce qu'appellent les Siciliens la mer africaine. Donc cette île, elle est fictive, comme souvent les lieux décors. Dans les territoires, les décors dans mes livres, mais elle a toutes les caractéristiques d'une île méditerranéenne et des îles en général, c'est-à-dire avec ce que je pourrais appeler les écosystèmes insulaires qui sont le... un mélange de paranoïa, de grande confiance en son insularité et de méfiance envers le monde extérieur, et puis d'entraide et aussi d'enfermement, comme toujours. Ça ressemble à une famille, hein, vous ne trouvez pas ?
Oui,
tout de suite ce que je décris là. Et donc le lieu en effet très important parce que c'est aussi une île extrêmement extrêmement sèche. C'est un caillou en fait. Elle est aride et elle est c'est un rocher, cette île. Et donc d'ailleurs je me suis rendu compte à la fin de l'écriture du livre que le mot pierre, le mot caillou apparaissait
très souvent.
Très souvent. Donc, la minéralité de l'île est très importante. Parce que c'est pas rien, quand même, de naître sur un caillou.
Oui, et puis symboliquement, ça va être aussi, j'allais dire, presque le fil rouge de l'histoire. Cette minéralité, ces cœurs qu'on transforme en pierre pour pouvoir résister, justement.
Oui, c'est ça, cet assèchement assèchement des cœurs, quand le réel devient trop difficile. Donc, en effet, symboliquement, c'était très important.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est à un moment, vous le dites, que son cœur est rétréci en pierre ou qu'elle... Oui, tout à fait. surtout, il ne faut pas qu'il y ait la moindre émotion qui échappe.
Oui, alors c'est le cas pour Aïda, l'une des quatre sœurs dont vous parliez tout à l'heure, l'une des quatre sœurs qui, elle, va devoir quitter l'île alors qu'elle est encore très jeune, elle doit avoir 16 ans, je crois, parce que elle est bannie de l'île. Et c'est pas rien d'être bannie de l'île, elle est bannie de l'île, elle est bannie de sa famille. Et pourquoi elle est bannie ? Parce que quand elle était petite fille, à 8 ans, elle a perdu sa toute petite sœur lors d'une nuit de carnaval. Alors là,
on va pas dévoiler.
On ne dévoile pas grand chose en même temps parce que c'est la première scène. C'est les deux premières pages du livre. Elles s'en vont toutes deux, les deux petites sœurs, les deux plus jeunes sœurs de la famille. Elles s'en vont au carnaval une nuit. Elles font le mur. Et il y en a qu'une qui rentrera. Et à partir de ces circonstances, à partir de cette situation dévastatrice, toute l'économie même de la famille va évidemment flancher.
Oui, toute l'économie de la famille, et je veux dire presque toute l'économie de l'île, parce que justement, ce qui est caractéristique aussi du milieu illien, c'est que tout le monde sait tout sur tout, mais personne ne sait rien sur rien.
Oui,
c'est à la fois le fait de vivre toujours ensemble, toujours collés, dans cette ambiance un peu fusionnelle ou rivalitaire, puisqu'il y a des clans comme dans toute communauté humaine, et en même temps, au final, personne ne connaît personne, vraiment.
Oui, c'est ça. Et c'est un peu le cas, en effet. C'est pour ça que c'était intéressant de mettre cette cellule familiale au milieu d'un organisme plus vaste qui était celui de l'île. Mais comme si, en effet, c'était une cellule au milieu d'un organisme. C'est vraiment ça. C'est en vous le disant que ça m'apparaît vraiment très clairement. Et parce que dans les familles, on le sait bien, c'est les familles, les choses sont souvent non dites. On parle, mais en fait le silence est là. Les secrets, on le sait bien, les secrets de famille, c'est quelque chose qui entrave le bon fonctionnement de la cellule familiale elle-même. Donc c'est quelque chose de très important dans cette histoire, le déni primaire presque qu'il peut y avoir aussi de ce qui s'est passé cette nuit de carnaval. Et par exemple, la mère des quatre filles, elle, Sylvia, ne va jamais, c'est pas une question d'acceptation, c'est pas qu'elle va pas accepter que sa fille ait disparu, ait vraiment disparu. Elle va simplement considérer que elle est là, pas loin, quelque part, et que de toute façon, elle va revenir. Et donc, ce déni-là, il est très, très intéressant, parce que c'est même un rapport au magique, il me semble.
Oui, mais le magique, on y est d'une certaine manière, parce que... alors, Aïda est le personnage principal, on va en revenir à elle d'emblée, Véronique Ovaldé, puisque fille en colère sur un banc de pierre, c'est elle dont on parle dans ce roman qui est paru chez Flammarion. C'est comme ça que la voit un des personnages du livre. Aïda, donc, elle a été chassée de l'île, un peu comme un corps se débarrasse d'une écharde. On la pousse vers l'extérieur. Elle a gagné le continent. Elle y est depuis plusieurs dizaines d'années. Elle a de nouvelles de personne à part une carte de sa mère de temps en temps. Et Aïda, elle a tenu malgré tout. Elle ne renonce à rien et Aïda vit très simplement dans un univers qui est à la fois, j'allais dire, très scientifique, puisqu'elle se passionne pour des ouvrages sur le Big Bang. En vous attendant, je voyais un livre sur la physique quantique, je me disais, ah, ça c'est pour Aïda. Donc elle est dans ces lectures-là, et en même temps, elle est également dans le fait d'avoir un univers onirique et des rêves nocturnes extrêmement présents, prémonitoires. Et donc, on est en permanence dans cet équilibre. Et c'est ça qui m'a fascinée dans Fille en colère sur un banc de pierre, c'est comment tous ces personnages composent avec les différentes facettes de la réalité.
De la réalité et leurs contradictions, les contradictions de la réalité et leurs propres contradictions. Je crois qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime chez les gens, les contradictions. C'est quelque chose que j'aime dans les personnages. C'est cette idée qu'en fait, de l'ambiguïté, vous voyez, le clair-obscur, c'est quelque chose de tout à fait passionnant parce que les gens ne sont pas des archétypes. Que je pensais à ça l'autre jour, je me disais, mais au fond, ce que j'aime, c'est quand les gens ont l'air tout à fait ordinaire à l'extérieur, comme des géodes, vous voyez, et à l'intérieur, ils sont tout à fait extraordinaires. Et donc, c'est chez Aïda, il y a cette tentation du magique, en l'occurrence, cette tentation de... Elle sait très bien qu'elle a une forme de connexion à l'invisible, on va dire, et en même temps, elle est très pragmatique, est très pragmatique, donc elle se défend bien d'être ce genre de personne, et elle l'a, et donc elle se réfugie d'une certaine façon dans en effet la science qu'elle étudie, mais alors qu'elle étudie pas du tout à titre professionnel, non. Puisqu'en fait c'est pas du tout son métier, et elle a des métiers extrêmement modestes, donc c'est pas du tout ça ce qu'elle fait, mais en fait, en tout cas c'est ça, c'est un refuge mental. Cela dit, elle s'intéresse beaucoup au temps quantique, qui est quand même l'une des choses les plus folles.
Oui, j'allais dire, ça se retrouve quand même, oui, quelque
c'est
quand part même,
voilà, c'est quand même exactement, parce que c'est là quand même le fait qu'elle pense parfois que sa petite sœur est toujours présente
dans une autre dimension.
Le temps quantique lui permet cette pensée, bien entendu, puisque tout arrive en même temps dans des dimensions
réalités
différentes, des réalités différentes et dans des temps différents. Donc, comme chacun sait, bien sûr.
faut dire que cette petite sœur est aussi un personnage qui sort du commun. On va là faire un petit saut en arrière et revenir sur ce très beau personnage de Mimi, qui est une petite fille qui a des dents moches du bonheur. Mmh. Alors ça j'aime beaucoup. Et qui est particulière aussi, elle va être appelée par ses sœurs aînées la gogole pendant très très longtemps parce qu'elle ne parle pas. Et quand effectivement elle parle très très peu, et quand elle s'exprime, elle dit des choses absolument incroyables.
Oui, elle dit des choses un peu folles et aussi un peu...
Presque... Elle fait un peu oracle.
Elle fait un peu oracle, oui. Parce que je ne sais plus exactement la première phrase
vous
qu'elle
n'entendez pas
dit. C'est... Oui, c'est ça. Personne n'entend. Oui. Je crois qu'elle dit personne n'entend. Et parce que justement, elle a cette relation à l'invisible dont je parlais
elle
là,
aussi,
parce
oui.
que les enfants ont cette relation à l'invisible. Genre, on le sait tous, enfin, si on a fréquenté un peu des enfants, ou si l'enfant en nous est toujours un petit peu présent. En fait, on sait très bien qu'on avait une relation à l'invisible et au bizarre, à la superstition. Tous les enfants sont superstitieux. Et vous savez
pas
bien.
Marcher sur les lignes, sur le trottoir, par exemple.
Non, on le fait hein? tous quand même quand on est enfant.
Enfin, j'espère.
J'espère aussi. Enfin, le problème, c'est que parfois, on continue à le faire.
Oui.
Et donc là, les enfants sont très obsessionnels. Et donc, elle est comme ça, Mimi. Elle a ce truc-là. Et donc, en effet, la première phrase qu'elle dit, c'est « personne n'entend ». Donc, sa sœur, Aïda, est là au moment où elle prononce cette phrase qui va être une phrase qui va créer un lien très fort entre elles. Mmh. Elle a assisté à une sorte de miracle, sa petite sœur a enfin parlé. Et elle est une sorte d'oracle, en effet. Elle a quelque chose de cet ordre-là. Je ne l'avais pas formulé ainsi, mais c'est très juste. Elle est oraculaire, Mimi, et c'est pour ça qu'elle est comme un petit trésor. Elle est un trésor pour sa sœur, elle est un trésor pour leur père. Parce que
sûr.
Le père, et ça c'est très important dans cette histoire, c'est quand même le père de 4 filles. Alors, et sur ces 4 filles, il y en a 2 qu'il aime beaucoup, qu'il adore, et il y en a 2 autres qu'il aime moins. Et l'une des particularités, c'est qu'en fait, simplement, c'est les 2 aînés qu'il aime moins. Et les 2 aînées, simplement, elles sont moins jolies, elles ont moins de charme que les deux préférées. Ce qui est d'une injustice absolue, évidemment, pour les 2 aînées et pour les 2 plus jeunes aussi.
Mais oui, c'est comme ça.
Parce que c'est comme ça, mais tout le monde va en souffrir de cette préférence. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, qu'on a tous remarqué dans les familles, et particulièrement dans les familles de filles, hein, je trouve, où il y a le corps est fondamental, la beauté, la joliesse, le charme de l'enfant va être extrêmement important dans la relation que l'adulte va entretenir avec l'enfant. Et du coup, dans ce que va devenir cet enfant quand il sera adulte. Et donc, cette rivalité possible, cette compétition, cette jalousie qu'on voit tout le temps, en fait, dans les familles, on le sait tous, enfin, ça finit parfois par exploser la figure de tout le monde. On est juste très content parfois que la famille, quand quelqu'un vous dit « je m'entends très très bien avec ma sœur », et c'est comme une exception, quelqu'un qui assumerait totalement que la relation avec sa sœur soit une relation équilibrée et égalitaire, on sait que c'est exceptionnel. Donc c'est un peu particulier tout ça, qu'il y a à la fois cette férocité dans les familles et en même temps cet amour, cette affection. Et donc c'est ce qui se passe entre ces 4 filles. C'est le père finalement, c'est le père dans son austérité, dans sa dureté aussi, parce que lui c'est un vrai caillou en l'occurrence, et qui va induire finalement toute cette tragédie. Sans le vouloir, bien entendu, puisqu'en fait, jamais il aurait voulu que tout ça se déroule de cette manière. Mais c'est cette figure du père qui, au début du texte, vient de mourir.
Oui, c'est pour ça qu'Aïda va revenir.
Puisque sa sœur l'appelle, sa sœur qui ne lui a pas parlé depuis 15 ans, et qui lui passe un coup de fil, et qui lui dit « coucou ». Et là, Aïda se dit « c'est absurde ». On ne dit pas coucou à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans. Mais en fait, les gens vous disent coucou au bout de 15 ans, même s'ils n'ont pas voulu vous parler. J'en ai fait l'expérience. Et donc, ça va être très important, la figure de ce père à la fois puissant et misérable.
Oui, d'ailleurs, on va parler, Véronique Ovaldé, un petit peu de la construction de Filles en colère sur un banc de pierre, donc paru chez Flammarion, parce que ce père, lui, il vient d'ailleurs. Lui, il n'est pas de Yatza. Il va venir, il va succomber à une chute d'âme. On n'en dira pas plus, on laissera découvrir le pourquoi du comment. Mais le livre est fait de telle manière que on va donc suivre Aïda dans son présent, donc de retour à Yadza, entrecoupé des justement des contes et légendes de cette fameuse famille. Oui. Alors, ce choix de construction.
Alors, le choix de construction, au fond, je crois qu'il correspond à ma complexion mentale. Je crois que c'est un système un peu circulaire comme ça. Puis, je crois aussi que écrire un livre chronologique m'ennuierait beaucoup. Partir du point A au point B en suivant un trajet rectiligne, je crois que ce serait terrible. Enfin, je crois que je m'ennuierais. On met quand même des milliers d'heures à écrire un livre. Donc, si vous passez des milliers d'heures à vous dire... À ne pas avoir de surprise, ce serait vraiment accablant. Donc je fais continuellement des 2 pas en avant, 3 pas en arrière quand j'écris. Et c'est pour ça que j'ai ponctué l'histoire du retour d'Aïda sur l'île de Yadza avec tout ce que ça va impliquer, de remise en question du système familial et du système entre les sœurs, et puis de règlement de compte, évidemment. Hein. On ne peut pas éjecter les gens comme ça d'une famille ou d'une île, d'une communauté, d'un organisme, comme vous disiez. On ne peut pas les éjecter comme ça sans en payer le prix un jour. Et donc, Aïda, vous voyez, je fais tout le temps des digressions, puis je reviens sur là, je reviens en arrière. Et parfois je me perds. Hein. Et donc j'avais très envie quand même qu'on sache ce qui s'est déroulé aussi
avant
et de manière légendaire. Parce que justement les familles, on le sait bien, on a tous des légendes familiales.
Oui.
D'ailleurs, dans des familles plus ou moins existantes, plus ou moins présentes dans nos vies, plus ou moins fantomatiques. Mais il y a des légendes. On est construit avec des légendes. On est construit avec des récits. On est des animaux à histoire.
Mais heureusement.
On n'est pas des hamsters. Et donc ce que j'appelle conte et légende de la famille Salvatore, c'est l'histoire donc du père, la manière dont il arrive sur l'île, et je l'ai ponctué par 5 épisodes. C'est 5 épisodes, je crois, de la vie de Salvatore. Comment il arrive sur l'île? Comment il rencontre la mère des filles et comment il devient le père de ces 4 gamines. Et ça, c'est très amusant aussi quand... c'est très réjouissant quand je l'écris ça, parce que moi-même, je comprends exactement l'ordre symbolique de cette famille et de ce lieu, grâce à la manière dont cet homme a fabriqué finalement sa vie sur l'île et à fabriquer ce foyer sur l'île.
Thank you.
Oui, surtout qu'on arrive au moment où commence le livre, comme on l'évoquait, au moment où il vient de mourir d'une perturbation de son pacemaker. Voilà, donc on ne le verra pas, mais on va le voir en creux, justement, au travers des réactions des filles et de ce qu'elles peuvent en dire, et en même temps de ses contes et légendes. Donc en fait, il va devenir un personnage principal en creux, parce que c'est lui qui... C'est un sacré personnage, c'est un personnage complexe, c'est un personnage qui était plein d'amour pour ses filles. Mmh. Et donc il y a eu une grande souffrance de tous les côtés entre Aïda, Mimi et lui. Et j'allais dire que c'est lui le passionné d'opéra, c'est lui qui passe son temps à en écouter, c'est lui qui va appeler ses filles avec ses prénoms de personnages d'opéra. Et en même temps, le livre est un peu un opéra. Aussi, avec cette dimension symbolique que vous évoquiez. Et je pensais à un autre personnage qui est extrêmement important, même s'il ne dit rien, c'est le personnage de Pippo, qui est une espèce de passeur, qui est un personnage que j'aime énormément. Et j'allais dire, c'est presque lui qui va servir de pivot pour bien des choses.
Oui,
il intervient à plein de moments.
Ça me plaît bien, ça. Ouais. Oui, parce que Pippo, alors, qui est Pippo? C'est celui qui est là, d'ailleurs, dès le début du livre, on le voit, on l'aperçoit dans les contes et légendes, on va l'apercevoir. En tout cas, dans l'histoire des filles, quand elles sont enfants, on va le voir. Il est là, comme un personnage de second plan, mais qui va se révéler être un personnage pivot, en effet, un personnage extrêmement important. C'est le muet, lui, c'est le muet, parce qu'en fait, on pense qu'il est même pas capable de parler.
Il a manqué d'oxygène à la naissance,
que ne comprend pas la petite Aïda quand elle est enfant, en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des jours sans oxygène sur Yatsa? Et donc, en effet, il est déficient mentalement, donc en fait, tout le monde...
Il tricote.
Il est cantonnier, quand il devient adulte, il est cantonnier du village, mais enfin, il est un cantonnier totalement inefficace. Il est à peu près inefficace dans tout ce qu'il fait. Mais il est là, et il regarde, et il est le veilleur. Il est celui qui voit, il est celui qui veille, il est celui qui sait. Mais tout est enfermé à l'intérieur de Pippo. Mais ça aussi, c'était quelque chose. Il est venu au début, Pippo, dans toute cette histoire, parce que je le voyais enfant, déjà un grand garçon un peu triste. Et ce genre de garçon où on est content qu'il y en ait un comme ça dans une communauté, mais on est surtout content quand c'est le fils de l'autre, le fils d'une autre mère. Parce qu'évidemment, c'est quand même moins bien quand c'est le nôtre. Et en fait, il était à la fois d'une grande neutralité, parce qu'on ne sait pas comment pense Pippo. On ne sait pas ce qu'il pense et on ne sait pas comment il pense. Puisque jamais il n'exprime quoi que ce soit, sur son visage même, il n'y a rien. Mais c'est évidemment par lui que la révélation se fera.
Par étapes.
Par étapes.
Bien sûr, parce que tout ne vient pas tout le temps.
Une révélation.
Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pippo, moi je l'ai perçu comme une espèce de veilleur de l'entre-deux. Là encore, on évoquait la réalité, le monde magique, et je le sens dans l'entre-deux, entre le vivant et la mort.
Oui, bien sûr.
Il va sauver la vie de Mimi.
Oui, à plusieurs reprises.
Mimi qui va résister plusieurs fois, enfin qui devrait mourir plusieurs fois et qui pourtant échappe à chaque fois. Et en même temps, il est gardien. Et c'est vraiment ça. C'est presque le passeur.
C'est lui. C'est lui qui a cette possibilité d'être exactement entre la vie et la mort. Et donc, c'est pour ça que c'est un personnage fondamental. Mais qui peut créer un malaise chez certains personnages, certaines sœurs dans la fratrie dont on parlait. Ça m'énerve qu'on dise fratrie, mais c'est comme ça. Parce que sorori, je crois que ça n'existe pas.
Pas très beau.
Oui, plus, mais en même temps...
Ça veut rien dire.
Oui, mais vous savez, le truc de... Moi, je me souviens quand on disait autrice, il y a 5 ans, on vous disait, c'est pas très beau.
et puis maintenant.
Et puis maintenant, tout le monde dit autrice. Et non seulement tout le monde dit autrice, et tout le monde a raison de dire autrice, puisque c'était juste un mot qui avait disparu, qui avait été rayé par l'Académie française il y a 2 siècles. Et donc, ce qui n'est jamais anodin. Donc, je me dis, sorori, ça va bien arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison que 4 sœurs soient une fratrie. Oui, Pipo, il peut être un personnage un peu inquiétant pour certains, pour certaines, parce qu'on voit bien qu'il regarde. Mais tout comme, en fait, vous savez bien, il y a ce truc avec les gens comme Pipo, c'est comme avec les animaux, on est flatté quand ils nous aiment bien, et puis on n'est pas très à l'aise quand ils nous regardent avec méfiance ou quand ils sont un peu hostiles. Donc on devine que Pipo a une connaissance souterraine, secrète, mystérieuse du monde.
Et Aïda va donc revenir sur cette terre, va retrouver Pipo, va retrouver ses sœurs, va lutter contre une nostalgie suffocante. Oui. Ça, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans le livre, parce qu'on la sent, vraiment très présente quand même.
Ben oui, elle ne veut pas se laisser aller à la nostalgie. Non. Parce qu'elle est venue, elle est retournée sur l'île quand même pour...
Elle a un but.
Oui, alors elle a un but au début très...
matériel, très...
Très matériel, en effet, simplement, voilà, il va y avoir un héritage.
Je veux des sous.
Elle a besoin d'argent pour pouvoir s'acheter un petit quelque chose à Palerme et ne plus être dans une grande précarité. Enfin, elle n'est pas dans une grande précarité, elle est un peu précaire. Donc, en fait, elle aimerait bien que le monde soit un peu plus confortable pour elle. Donc, elle revient pour ça. Et mais finalement, elle se ment, elle se raconte des histoires. C'est pas pour ça qu'elle revient, évidemment. C'est qu'elle veut faire rendre gorge à ceux qui l'ont...
Qui l'ont saccagé son enfance. Bien sûr, bien sûr.
Et son adolescence, et qui l'ont obligé à partir. Donc si elle se laisse submerger par l'émotion, par la nostalgie, elle ne pourra plus, en fait, régler ses comptes. Et c'est quelque chose qu'elle fait, qu'elle a fait pendant des années à Ida, quand elle est à Palerme, pendant toutes les années où elle habite à Palerme, après avoir quitté Yatsa. C'est que je dis qu'elle est un petit peu comme la Hollande, vous savez, elle a érigé des digues. Donc il faut faire très attention que les digues ne se fendillent pas. Et donc Aïda, elle est comme ça. Aïda, c'est un petit personnage extrêmement raide au début du texte, qui s'assouplira, qui s'adoucira, mais qui est raide parce que c'était le seul moyen
de tenir.
De tenir. Bien donc sûr. Elle avait un fil à plomb extrêmement qui la tenait de manière très précise et donc de manière très solide. Et c'est le seul moyen qu'elle avait trouvé pour tenir debout.
Brucia la luna in cielo, io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume e cuore. L'anima che piange, addolorata, non si dà pace, ma che mala nottata. Brucia la luna in cielo, io brucio d'amore, fuoco che si consuma come lume e cuore. L'anima che piange addolorata non si dà pace, ma che mala nottata. Lo tempo passa, ma non la giorna. Non c'è mai sole, si da non torna.
mi i siti d'acqua in aiuti d'amore a cui l'accanto la mia canzone si non c'è nudo casa faccia lo barconi. La canto la megazone, se non c'è nudo casa faccia lo barcone, se non c'è nudo casa faccia lo barcone.
Alors elle va retrouver ses deux sœurs aînées. Alors moi, j'ai une vision, Véronique Valdé, parce que ces deux sœurs, donc Violetta et Gilda, je les ai vues comme les belles sœurs de Cendrillon.
Ah, c'est drôle, quelqu'un d'autre m'a dit ça l'autre jour. J'avais pas pensé. Mais parce que ça a l'atmosphère aussi du conte.
Mais oui, hein. C'est ça, c'est le côté magique. Non, et puis elles sont tellement.
Voilà. Oui, elles sont à la fois insupportables et en même temps
elles font pitié.
Oui, elles sont très touchantes parce qu'elles sont abîmées elles aussi. Elles sont abîmées, puis elles font comme elles peuvent. Elles font comme elles peuvent avec ce qui leur a été donné.
Elles n'ont pas été choisies quand même. Hein, donc,
oui. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans ces familles-là, ne pas être choisi. Donc, et à qui vous faites porter votre désarroi. C'est rarement sur la bonne personne que vous faites porter votre désarroi.
Et puis, il y a ce personnage assez étonnant qui est le personnage de la mère. Moi, j'ai trouvé ce personnage extrêmement touchant parce que donc elle a vieilli, donc elle a passé toute sa vie au service de la personne influente, la personne riche de l'île qui s'appelle la Gandolfi, qui était un manoir. Donc, et puis elle en a hérité et elle se retrouve dans cette maison alors qu'elle a toujours habité la maison du bas et elle se retrouve là et elle est dans une grande solitude, au point de se faire la conversation à elle-même. Et je la trouve absolument touchante quand elle est là. Et alors, comment tu vas, Sylvia? Et est-ce que tu veux un beignet? Je trouve qu'elle est très, très belle. Et dans son désarroi d'avoir perdu sa fille, qui est là, puisque quand Aïda arrive, elle crie Mimi. Et donc, ça va bien sûr jeter un froid. Mais c'est un personnage qui est, malgré la douleur, malgré le poids de tout ce qu'elle a vécu, reste dans la légèreté.
Ah oui,
elle s'est enfuie comme une espèce de petite bulle de savon.
Oui, elle est solaire, elle. Alors, le fait de sa solitude, la manière dont elle vit sa solitude, c'est quand vous dites là, je me souviens de... Pourquoi j'ai raconté ça? Parce que tout à coup, je sais en fait d'où ça vient. Mais vous savez, c'est drôle, hein, quand on écrit un peu aveuglément, en fait. Les choses infusent et on ne sait pas exactement d'où ça vient, heureusement. Et là, je vous entends, je sais, en fait, c'était l'une de mes nombreuses tantes qui se sentait très seule et s'envoyait des cartes postales.
Oh,
et ça, quand j'étais petite, ça me fascinait de s'envoyer des cartes postales à soi-même. Donc... Et donc elle faisait ça, et donc je pense que c'est, vous voyez, elle est un petit peu comme ça dans la Sylvia. Sylvia qui reste un personnage solaire parce qu'elle, elle est profondément dans le déni puisqu'elle considère que Mimi
est toujours là quelque part aussi,
dans
une autre réalité.
Pas de raison qu'elle revienne pas. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est à la fois extrêmement faible. Et à un moment donné, je dis que ses filles, au fond, ne l'aimaient pas quand elles étaient gamines, parce qu'elle était du côté des perdants. Et on n'a pas envie d'être du côté des perdants quand on est un enfant. Et elle est du côté des faibles, puisqu'elle accepte de se faire maltraiter, même par le père Salvatore. Alors que finalement, quand elle va chez la Gandolfi, elle assure. Donc c'est simplement dans sa relation à l'homme, dans sa relation au patriarche, qu'en fait elle est incapable de prendre vraiment son essor. Et c'est seulement à l'extérieur qu'elle pourra le prendre. Et ça, c'est quelque chose au fond d'assez courant, hein, dans les couples, en tout cas dans ce type de couple-là. Donc, évidemment, Salvatore, il considère qu'il est supérieurement intelligent, en tout cas, beaucoup plus intelligent que sa femme, puisqu'il ne peut pas imaginer qu'elle l'est. Et qu'en plus, bon, elle est beaucoup plus âgée que lui, enfin, pas beaucoup plus, mais elle est si, beaucoup plus par rapport à ce qui se passe dans ce genre d'endroit. Oui. Elle doit avoir 5 ans plus que lui, ce qui
n'arrive jamais. On n'arrivait pas à la caser, donc...
Il se sent évidemment en surplomb. Voilà, il se sent en surplomb. Et quand les gens se sentent toujours, les personnes avec qui vous vivez se sentent en surplomb par rapport à vous, vous finissez par accepter le fait de vous taire et que vous êtes peut-être pas si malin que ça, maligne que ça. Donc, elle est très touchante dans son abdication. Mais comme elle est un peu étrange et qu'elle a un rapport, elle, comme ça, aux fantômes, aux bizarreries, ou la superstition qui lui est très particulière, qui fait aussi qu'il la méprise un peu pour ça, son mari. Mais au fond, comme elle a ce rapport à la superstition et à l'invisible qui est très prégnant, elle, finalement, elle, c'est une vraie force pour elle.
Oui, oui, oui. Et puis j'allais dire, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle s'accommode de tout. Parce que on a vu que donc Mimi allait disparaître un soir de carnaval. Là aussi, symboliquement, c'est pas rien, le moment du carnaval. Hein. C'est là aussi où tout se mélange, où tout bascule, où tout s'inverse. Et on est dans une situation où le père interdit aux filles d'aller au carnaval. C'est ce qui va déclencher.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont follement envie d'y aller.
La mère, elle y allait quand elle était jeune. Et j'allais dire, en contrepartie de l'interdiction d'aller au carnaval, elle leur fait du pain perdu. et c'est le moment du pain perdu et de l'odeur du pain perdu. Parce que, bon, comme d'habitude, avec Véronique Ovalde, on est dans une écriture extrêmement sensorielle.
Oui.
Ça ne change pas. Une écriture aussi où vous intervenez et où vous interpellez aussi le lecteur. De par tous ces éléments, on est immergé dedans et on la voit, cette mère, en train de faire ce pain perdu alors qu'on entend le carnaval
qui est
au loin.
Censé être consolateur.
Mais oui, voilà.
Qui est censé être consolateur, mais évidemment, ça ne console de rien, du pain perdu. Mmh. Les filles, elles entendent ce qui se passe à l'extérieur, elles frémissent de désir à l'idée de ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon, on le sait, hein, interdire aux enfants comme ça de sortir, ça ne fait qu'exciter leur désir. Donc c'est là où il se trompe, Salvatore. Et c'est aussi là qu'il est en surplomb, comme il se croit supérieur à tout le monde, et comme c'est lui le patriarche, c'est lui le gardien du fief, et ben il se trompe complètement, évidemment. Et en plus il a cette tendance là à sous-estimer la gente féminine, donc il peut pas imaginer qu'elle est beaucoup plus maligne, la gente féminine, que il pourrait le penser, et qui pourrait l'estimer, et elle sait très bien, cette jeune féminine, faire justement, on cultive les compétences de son écosystème. Donc c'est normal que à partir du moment où vous interdit énormément de choses, eh bien on devient des dissimulatrices en chef.
Alors tout ça aura une résolution. On n'en parlera pas. Il faut lire Fille en colère sur un banc de pierre. C'est de Véronique Ovalde. C'est paru chez Flammarion. On a parlé de beaucoup de personnages féminins. On a évoqué la figure du père qui est décédé. Mais il y a un personnage masculin qui est présent et qui, lui aussi, va suivre le mouvement d'Aïda d'une certaine manière. Et c'est aussi un beau personnage. C'est ce personnage de Leonardo.
Oui, Leonardo, qui est le mari de la sœur aînée. De Violetta, qui est un homme politique, mais disons de la mairie, quoi. Ouais. Qui se présentera sans doute un jour à la mairie de Yatza. Et lui, c'est pour ça qu'à la fin, je m'interroge, je me dis peut-être que c'est lui le vrai héros de l'histoire.
Ouais.
Et on peut pas le deviner au début. Donc c'est pour ça qu'il faut pas j'en dire. Au début, on a l'impression d'un personnage un peu falot, un peu à l'extérieur, un peu
féminin.
Un peu féminin. Oui, d'ailleurs, il est un peu féminin. Elle le dit d'ailleurs, Aïda. Enfin, je le dis pour Aïda.
Oui, elle a pas peur de lui parce que justement, il n'a pas cette virilité agressive.
Exactement.
Parce qu'il a un petit embonpoint et qu'il est pas menaçant.
Ouais. Il est très beau, mais d'une beauté douce et accueillante. Il est gentil, ce qui en fait et accommodant. Ce qui en fait un homme qui, au départ, se demande sur l'île, c'est son père, son grand-père s'interroge quand même sur ce garçon-là. Et puis finalement, ça lui donne des compétences diplomatiques pour faire son métier à la mairie de Yatza. Mais il est, en effet, c'est un tendre. Et c'est pas facile d'être un homme tendre, d'être un homme doux, je trouve. Par les temps qui courent aussi, d'ailleurs. Et donc, il me touche beaucoup, Leonardo. Et c'est pour ça que peu à peu, lui, c'était pas évident qu'il devienne le vrai héros de l'histoire. Mais peu à peu, finalement, c'est lui qui devient le héros.
Et donc, il sera en bordure du chemin.
Voilà, exactement.
Merci Véronique Valdé.
Merci Alexandrine.
Et puis, il y a déjà des projets, il y a déjà...
Non, c'est trop tôt.
Bon, lisez Fille en colère sur un banc de pierre, c'est chez Flammarion et c'est de Véronique Valdé. Merci beaucoup.
Merci.
Droit du libertaire.
Voilà, c'était donc Véronique Valdé, Fille en colère sur un banc de pierre, très beau roman paru aux éditions Flammarion. Et maintenant, deuxième partie d'émission, on va retrouver David Thomas pour Partout les autres, un recueil de nouvelles plutôt du genre court, qui sont parus aux éditions de l'Olivier. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver David Thomas, qui revient avec un recueil de nouvelles, ce qui est quand même une habitude, même s'il y avait eu une escapade vers le roman à un moment. Et ce recueil de nouvelles est paru aux éditions de l'Olivier et s'intitule « Partout les autres ». Alors déjà, merci David Thomas d'avoir accepté cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous lire. Et je dois dire que j'ai aussi beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Je crois qu'il faut dire un mot du titre quand même, parce qu'il résume, il est très bien trouvé et il résume assez bien le contenu des nouvelles, de la soixantaine de nouvelles à peu près, je ne les ai pas comptées, mais qui sont dans le livre.
Oui, le titre, en fait, effectivement, je trouve qu'il synthétise assez bien ce que je fais depuis 15 ans avec ces micro-nouvelles. Et donc... Il n'a pas un sens particulier pour ce recueil-là particulier, mais je trouve que ça fonctionne bien avec ce que je fais, oui, effectivement. Ce sentiment qu'on est un peu entouré, quoi, mais en même temps qu'on est obligé de composer. C'est un peu à double sens. Ça veut dire qu'effectivement, on a tous ce sentiment parfois d'être un peu entouré, appelons les choses par leur nom, par les cons, et en même temps, on ne peut pas faire sans. Les autres, on se fait pour, par, contre, avec les autres. Donc, c'est une façon de dire aussi qu'il faut faire avec, quoi. Voilà, il faut s'adapter.
Oui, puis parfois, on se dit que ces autres, on y ressemble beaucoup aussi, d'une certaine manière. On en fait partie ?
Évidemment. On ne se soustrait pas. Ou alors, on est dans le déni. ou dans la prétention ou dans le déni. Mais non, oui, quand on a, si on veut être un peu honnête avec soi-même et un peu lucide, oui, on n'est pas mieux que les autres.
Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, avant de commencer à parler des nouvelles en elles-mêmes, j'aimerais bien, parce que ça m'a fait beaucoup rire, qu'on dise un mot sur la phrase qui est en exergue du recueil de nouvelles. Je ne sais pas si quelqu'un vous en a déjà parlé, mais moi, ça m'a fait...
Oui, pourquoi ? Oui, j'ai pris une phrase de Rambo que j'adore, du premier Rambo que je considère comme un très bon film. Les autres un peu moins, mais celui-là vraiment, je trouve que c'est un super film que je prends toujours plaisir à revoir. Et puis il y a cette fameuse phrase qui dit au shérif qui le poursuit avec ses hommes dans la forêt, il lui saute dessus, puis à un moment il lui dit « En ville, c'est toi qui fais la loi, ici, c'est moi. »
Ouais.
J'aime bien cette phrase parce que pour ce qui est de l'écriture, c'est un peu ça s'adapte bien à l'écriture, je trouve. Et ça veut dire que il faut rester sur ses rails. Il faut quand on est sur sa propre écriture, il y a que soi qui fait sa loi. Il ne faut pas essayer de s'adapter à la loi générale, à la loi extérieure, en ville, quoi. Voilà. C'est une façon aussi de se dire, bon, de me dire à moi, de m'encourager moi à rester sur ce que je fais.
C'est
parce que j'ai bien conscience. Oui, c'est important parce que c'est difficile. Et je pense que quand on est un auteur, bon, moi, c'est mon 9e livre. Alors, maintenant, je commence à être un écrivain. Enfin, bon, mais c'est difficile quand on ne vend pas énormément de livres, de ne pas être tenté de faire comme ou d'essayer de faire une autre discipline. Vous savez, moi, je dis souvent que je lance le javelot, moi. Et que la plupart des écrivains ils courent le 100 mètres. Oui. Parce que le 100 mètres, c'est la discipline noble. C'est la discipline que tout le monde veut regarder. Aux Jeux Olympiques, il y a des gens qui restent éveillés jusqu'à 3 heures du matin pour voir la course du 100 mètres qui se passe à l'autre bout du monde. Personne ne fait ça pour le javelot. Vous voyez, le javelot, ça attire pas les foules. Alors, qui sait que. Voilà. Moi, j'essaie de m'accrocher, si vous voulez, à ce que je fais. C'est difficile. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'anime des ateliers d'écriture. J'ai toujours tendance à dire ça à mes participants, aux gens qui participent à mes ateliers, parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir faire, on a toujours une idée de ce qu'il faudrait faire, comment il faut faire, comment il faut écrire. Et moi, je leur ai dit, c'est toi qui fais la loi. C'est que dans tout le monde, hein. C'est toi le patron. Donc tu fais comme tu veux faire. Et c'est difficile, si vous voulez, de pas avoir un peu la tentation de faire comme il faudrait, comme on s'imagine qu'il faudrait faire.
Oui, oui, et d'ailleurs, dans le recueil Par tous les autres de David Thomas, paru aux éditions de l'Olivier, il y a plusieurs nouvelles qui parlent de la question de l'écriture. Et donc, vos propos résonnaient avec ces nouvelles-là. Je pense, entre autres, à une nouvelle qui s'appelle « Le meilleur écrivain ». Parce que vous avez utilisé la métaphore sportive du 100 mètres et du javelot. Eh bien, c'est tout à fait ça, le meilleur écrivain.
Oui, oui, oui. Là, c'est l'histoire d'un... Bon, il y a toujours des histoires d'écrivains dans mes recueils.
Oui, c'est toujours les mêmes thèmes. De toute façon, c'est la vie. C'est la vie.
Ouais, c'est la vie, puis c'est celle que je connais. Donc, je vais pas, voilà. Mais, je n'écris pas que d'histoires d'écrivains, mais il y en a toujours 3 ou 4. Bon. Et là, effectivement, c'est l'histoire d'un monsieur qui est couvreur, qui va assister, qui a des petits problèmes avec l'alcool, et pour éviter de rester chez lui à picoler, il décide un jour d'aller assister à une rencontre avec un écrivain très, 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 très connu. Et qui connaissait pas vaguement comme ça, parce que le monsieur, c'est pas un grand lecteur. Et puis cet écrivain, il est interviewé par la journaliste ou la personne qui organise cette rencontre, et il semble avoir une assez haute opinion de lui-même. Et du coup, ce monsieur couvreur se dit, tiens, c'est bizarre, parce que il a l'air très très sûr de lui. Et donc ça lui est fait, ce monsieur couvreur se pose la question de savoir ce que ça veut dire qu'être un meilleur écrivain, parce que la journaliste lui dit, vous êtes le meilleur écrivain de votre génération, et ce type se dit, mais tiens, c'est bizarre, comment on peut évaluer ça? Comment on évalue le fait d'être le meilleur? Ça veut rien dire d'être le meilleur écrivain. On entend souvent ça, de dire de tel ou tel auteur, un des meilleurs écrivains de sa génération, c'est le meilleur. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et comme c'est un monsieur qui est assez prosaïque, enfin, il est un monsieur qui est près de... non, mais je veux dire que c'est pas un intellectuel. Donc, pour lui, c'est étonnant. Et il fait l'analogie avec Antoine Albault, qui est un véliplanchiste, qui est lui champion du monde. Il a été 25 fois champion du monde. 25 fois champion du monde, dans là, qu'il n'y a pas de doute, quoi. Si vous voulez, le mec, pendant 25 fois, il a fait le meilleur temps. Lui, c'est le meilleur, oui, voilà. Et tout ça pour dire que, si vous voulez, en littérature, il ne peut pas y avoir de meilleur. Ça n'a pas de sens de dire que quelqu'un est meilleur qu'un autre. Parce que la littérature, c'est l'art, il y a des singularités.
Oui.
Mais il n'y a pas de meilleur.
Et puis,
parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, tout simplement.
Et puis, il faut que ça résonne chez le lecteur. Donc, c'est une question de lecture individuelle et c'est tout.
Oui, mais il y a ça, c'est vrai. Mais il y a trop de paramètres pour dire qu'il y en a un qui peut être meilleur que l'autre.
Il n'y a pas d'indicateur.
Il y a des écrivains qui sont... Ça ne veut pas dire qu'il y a des écrivains... C'est-à-dire que ça dépend quel regard vous avez, c'est-à-dire quel point de vue vous avez sur la littérature.
Et à quel moment le livre sort, et en plus d'un livre à l'autre, ça peut changer pour un même auteur.
Oui, en plus.
C'est impossible. Non, mais
cela dit, moi je pense qu'il y a des écrivains qui se détachent des autres, c'est comme les acteurs, hein, c'est-à-dire que c'est évident. Mais c'est pas pour ça que c'est le meilleur, c'est ce que je veux dire. Est-ce que, comment vous dire, je sais pas, est-ce que Saint John Perse est meilleur que Bukowski? Vous voyez? Bon. La littérature, ça commence où, ça finit où? Qui est capable de... Moi, personnellement, je suis incapable de vous dire où commence et où finit la littérature. Je serais incapable de... Mais bon, aussi parce que je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas fait d'études universitaires. Donc, Mais...
Puis moi, je n'ai pas envie de faire rentrer dans les cases non plus.
Pardon?
Moi, je n'ai pas envie de faire rentrer dans les cases non plus, justement. C'est un domaine tellement libre.
C'est un vague, vaste sujet, mais pour revenir à votre question, oui, c'est ce monsieur, il se dit qu'il n'y a pas... Voilà, à partir du moment où il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a que des singularités. Et c'est ce qui compte. Et ça rejoint votre question sur la phrase de Rambo. Il faut travailler à sa singularité. Ça se paye, parfois, ça se paye parce qu'on n'a pas de succès, parce que les gens ne vous connaissent pas, parce que... Voilà, c'est... Mais il n'y a que ça à faire, malheureusement. Ouais, et puis, si vraiment vous n'en pouvez plus, bah vous arrêtez. Hein. Mais moi, je vous cache pas qu'il m'arrive souvent de me dire, mais à quoi bon ?
Mais d'ailleurs,
vous... Même, vous voyez, c'est très encourageant. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le papier dans l'idée, dans le Télérama, tout ça. Bon. Mais comme, ça dure 24 heures. Vous voyez, ça me réjouit pendant 24 heures. Mais après, je me dis, putain... C'est dur, quoi, de continuer à avoir envie quand vous n'avez pas beaucoup de lecteurs. Et encore, moi, je me plains parce que, bon, je fais mon Calimero, mais par rapport à beaucoup d'écrivains, je suis encore presque chanceux. Moi, j'ai connu plein d'écrivains qui ont arrêté au bout de 3-4 livres parce que, voilà, c'était terminé. Hein, plus de lecteurs, plus d'éditeurs.
J'en connais aussi, oui.
Donc, voilà.
Alors, vous en faites même un outil d'autodérision d'une certaine manière. Je pense à une autre nouvelle qui aussi est consacrée à l'écriture, qui s'appelle « Nouveau genre littéraire », justement, qui aborde la question de la nouvelle. Et moi, elle m'a fait beaucoup rire parce que, effectivement, bah, pratiquer le texte court, comme vous le faites, David Thomas, dans « Par tous les autres » ou les recueils précédents, ce n'est pas quelque chose qui se vend. On est dans une époque où maintenant, c'est les pavés de 500 pages... Et si c'est plus encore, et bien c'est encore mieux. On a l'impression que la littérature se vend au poids. Et vous, avec vos textes courts, que je n'appellerais pas micro-fiction, parce que ça, à mon avis, ce n'est pas ça, c'est vraiment des nouvelles. Eh bien, dans Nouveau genre littéraire, vous évoquez le fait que c'est le genre littéraire idéal pour les salles d'attente et que les gens se mettent à compter en fonction du nombre de textes qu'ils ont lus dans la salle d'attente.
Oui, c'est ça, c'est un... Là, pour le coup, c'est vraiment de l'autodérision. Oui. Je me fous un peu de ma gueule, mais en même temps, moi, j'adore ça, hein, l'autodérision. Donc. Et l'auteur de ce texte dit qu'il n'est peut-être pas le meilleur écrivain de sa génération, mais que lui, il a 21 genres. Parce que le directeur commercial de la maison d'édition dans laquelle il est arrivé il y a une dizaine d'années, le mec s'est dit, mais en fait, non. Je vais pas l'envoyer chez les libraires, de toute façon, ça sert à rien, ça se vendra pas, mais je vais l'envoyer chez les coiffeurs, les dentistes, les médecins, pour les mettre dans les salles d'attente. Et puis, au bout de 10 ans, bah, les gens ont petit à petit changé leur façon d'évaluer le temps qu'ils attendaient dans ces antichambres. Donc, ils disent, moi, j'ai un médecin, il est bien, on n'attend pas plus de 3 textes. Ah bon, t'as du bol, parce que moi, disons, le dernier, j'ai attendu 17 textes. Enfin bon, voilà, c'est une façon.
Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Alors, il y a d'autres nouvelles sur l'écriture, mais bon, on va laisser les futurs lecteurs les découvrir. Et puis, dans les autres thématiques qu'on trouve dans Par tous les autres, bah, c'est les thématiques habituelles de David Thomas, et c'est ce qui fait le plaisir, c'est que d'un livre à l'autre, il y a un fil qui se continue, quel fil de la vie, quel fil des relations, quel fil de l'existence, de textes très sensibles, qui peuvent aussi être très drôles, mais concrètement, là, c'est... Pour parler, par exemple, des relations d'amour, des relations de couple, y a pas mal de textes qui existent et il y en a qui sont extrêmement, extrêmement beaux. L'un des premiers, c'est Reine d'Égypte et Reine d'Égypte, c'est tout juste magique. Cet homme qui se rend compte que l'amour qu'il vit avec la femme avec qui il est en ce moment est tellement parfait qu'il préfère s'en aller avant que l'amour s'use et se dégrade. J'ai trouvé ça très très beau, et d'autant plus qu'il y a pas mal de nouvelles dans le recueil qui montrent la fin d'amour et qui montrent à quel point le désir peut disparaître. Et donc mettre en parallèle ces différents textes, ça donne quelque chose de très émouvant et très profond.
Oui, mais là, ce texte, en fait, c'est une lettre de rupture qui est écrite comme une lettre d'amour.
Oui, c'est une lettre d'amour.
C'est une lettre d'amour, mais c'est une lettre de rupture, puisqu'il la quitte. Mais elle est écrite avec le... J'ai voulu m'amuser. Je me suis amusé à écrire une lettre de rupture comme si c'était une lettre d'amour, parce que le type se considère que... Il lui dit, pour l'instant, tu es une reine d'Égypte, mais si on continue, tu vas devenir une compagne, ce serait gâché. Mmh. Il aime tellement cette femme. Bon, après, c'est aussi un type un peu singulier. Hein, c'est pas une foudre de travail. On sent que c'est un peu un parasite, quoi. Mais il aime tellement cette femme qu'il veut pas que le temps détériore ce qu'il éprouve pour elle. Et donc, il préfère la quitter. Voilà. Je sais pas, c'est...
Ouais, mais
il faut bien avoir ce courage.
Ouais, moi j'ai trouvé ça très très beau. Surtout qu'il y a, comme je l'évoquais, il y a beaucoup de nouvelles où justement on assiste à la fin des couples, à la mort du désir, avec
oui.
La disparition de la sexualité, la disparition de la tendresse, l'usure, les infidélités, enfin plein, le seuil de tolérance. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Toutes ces histoires qui se terminent, c'était bien d'avoir le pendant avec Reine d'Égypte.
Ah ben, tant mieux. Non, mais je vais vous inquiéter parce que ça sous-entend que j'écris peut-être trop là-dessus. C'est vrai, mais j'écris sur la vie, hein, moi, quotidienne. Vous savez, je suis pas... ça, c'est prosaïque. Moi, ça part de choses très concrètes, très quotidiennes, souvent. Hein, bon, alors, ça fait partie de la vie, quoi. C'est lassitude, le couple, ça fait partie du quotidien. Donc, j'écris aussi là-dessus, de temps en temps. Alors, ouais, c'est vrai, j'écris peut-être... Bon, c'est-à-dire que le bonheur, il y a peut-être moins de choses à raconter, je sais pas. Ou alors je suis moins doué. C'est possible que je sois moins doué pour écrire là-dessus.
Bah,
je ne sais pas.
Je crois que là où vous êtes doué, c'est pour écrire ce que peut faire le temps qui passe. Parce que vous l'évoquiez par rapport à Reine d'Égypte, de se dire ne pas laisser l'usure s'installer, ne pas laisser le temps se dégrader. Et je crois que c'est ce qui apparaît dans les autres nouvelles sur le couple. Et ça me renvoie aussi à une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle « Pour que l'été soit toujours à venir ».
Ah oui, mais ça c'est un vers que j'adore, c'est une phrase que j'avais voyez, j'ai des post-it devant moi dans mon bureau, et j'adore cette phrase, c'est un poète danois qui s'appelle Henrik Nordbrandt, qui est très connu au Danemark, parce qu'il lit beaucoup plus de poésie que nous. Et il écrit cette phrase dans un poème « Je souhaiterais que jamais n'arrive l'été pour que l'été soit toujours à venir ». Et j'adore cette phrase parce que ça synthétise parfaitement le désir. Quoi.
Oui.
Le désir, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a atteint son désir, on,
ah, ça descend,
on est
après.
Un peu post-coitum animal triste, vous voyez. Et c'est un peu ce que je... Dans cette nouvelle, c'est ce type-là cherche un coin...
Il part
au fin fond de la France, je sais pas quelle région, en plein dans la Creuse. Enfin, vraiment, il part dans un endroit très isolé. Il a besoin d'être isolé pour pêcher. Et puis, il finit par trouver, après de longues journées de recherche, il finit par trouver ce qu'on appelle le trou de rivière. Quoi. La rivière, la poissonneuse, magnifique, c'est beau, c'est sauvage, il n'y a personne. Il sort plein de poissons. Enfin, c'est
le paradis.
C'est une pêche babylonienne, c'est le miracle. Il finit par se déloquer, il se voit poil, il se baigne dans la rivière, voilà, il est bien. Et puis, voilà, une fois qu'il a trouvé ça, et il pense à cette phrase. Moi, je suis très là-dedans, moi. Je suis très un type qui a besoin de désirer beaucoup. Une fois que j'ai atteint mes désirs, je trouve ça triste, presque.
Oui, mais je crois que c'est ce qui nous fait continuer, c'est d'avoir un désir.
Il faut s'en réinventer d'autres.
Ouais.
C'est ça le problème de la vie, c'est ça, c'est qu'il faut toujours avoir des désirs.
One away. Said you were leaving, I couldn't see the reason why. Baby, you know you is in my life. Yes, you leaving, gonna leave poor lightning, and I can't see the reason why. But just as sure as heaven hang on our head above, babe, I want you to remember, little girl, you're the one I love. And you leaving ain't telling me nothing, and you won't say what for. You won't say what for. Out you were lying, but it's gonna come a day you're gonna love me in your time. You're gonna think about poor lightning in them lonesome times. My home alone, thinking about you, woman. Knowed you was gone, but that's all right. I'll sit here and moan. I'll sit here and moan. Look like it's sunny. Gonna shine no more. Darkness done caught me. No light in my door. But that's alright. I'll forever worry until I see you again tonight. Again tonight. I sit down and cry, thinking about you left me dissatisfied. But that's all right. That's all right, baby. That's all right. Baby, that's all right.
Oui, alors ça me fait penser à une autre nouvelle qui est justement, j'allais dire, qui dénonce un, peut-être un peu, c'est cette nouvelle qui dénonce un peu les travers de l'époque et qui m'ont beaucoup fait rire. Et cette nouvelle, c'est Stage d'ennui.
Ah oui.
Puisqu'on parle de désir, il y a Stage d'ennui où le personnage s'improvise coach et donc il propose à des participants qui vont s'inscrire très très vite un week-end d'ennui qui est vraiment à mourir. Mais c'était très drôle.
Oui, mais moi, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où est partie cette idée. Peut-être un truc de coaching. Aujourd'hui, on se fait coacher pour tout n'importe quoi. Ouais. Enfin, c'est grotesque. Hein. Il y a un côté presque assez flippant, même, je trouve. On se met parfois entre les mains de gens qui ne sont pas toujours très... Bon, bref, très honnêtes ou je ne sais pas. Enfin, et lui, il se dit, là, il a besoin de bosser. Il se dit, merde, il a besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Et comme c'est un type qui s'emmerde tout le temps, mais qui est très doué pour ça et qui adore ça d'ailleurs, il se dit, je vais faire des stages d'ennui. Aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. Moi, je vais montrer, les emmerdes, il faut une région où...
Oui, il pleut.
Voilà. Les emmène un peu près de la baie de Somme, vous voyez, c'est pas non plus le climat le plus marrant, c'est assez plat, enfin voilà.
Le détail du stage, on va pas le dévoiler, mais le programme du stage, c'est un petit...
Le programme, il leur fait un programme qui est vraiment... on s'emmerde, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à foutre, et ça marche.
Et ça marche, et en plus, quelque part, ça va faire renaître des désirs.
Ah oui. Ah oui, le dimanche soir, ils ont une pêche. Oui.
C'est ça qui est assez génial. Il y a quelques nouvelles comme ça qui dénoncent les travers de l'époque. Il y a Bonbonne d'air pur aussi, par exemple.
Le bio. Alors ça aussi, ouais. Ça m'a fait... Oui, c'est un type qui vend des bonbonnes d'air pur. Lui aussi, il s'est dit, merde, qu'est-ce que... Lui, c'est un peu plus...
C'est un peu plus cynique, lui.
Un peu plus cynique, parce que c'est vraiment un type qui a toujours fait des affaires un peu louches. Et d'ailleurs, il se dit, tiens, je vais vendre des bonbonnes de l'air. Il y a un coin, je sais plus où... Il vend de l'air de haute montagne, je
ne
sais plus ce qu'il vend,
Ça te fera remplir un appartement pendant 3 jours.
Alors, il y a la bonbonne juste pour respirer, mais il y a aussi la bonbonne pour renouveler l'air de l'appartement. Alors, ouais. Ça, c'est un peu plus cher, évidemment, mais ça marche très, très bien. C'est une bonne affaire avec ça.
Oui, mais ça fait partie de ces nouvelles aussi qui parlent des lieux où on vit. Et de comment on aborde notre environnement. Et ça me permet de faire le lien avec une nouvelle que j'aime énormément, qui s'appelle Maison de campagne, qui est une véritable histoire d'amour entre un homme et une maison, et une histoire d'amour réciproque. Et en même temps, voilà, il va y avoir une rupture d'une certaine manière, et j'ai trouvé cette nouvelle...
J'aime bien aussi celle-là.
Très belle,
c'est un... Monsieur qui se séparait de sa femme, il est au bout de la séparation, c'est-à-dire qu'il est sorti du trou, ça y est. Ils se sont séparés il y a plusieurs mois, il a mis des années, puis il décide de venir vivre dans cette maison qu'il a achetée avec son ex-femme. Il change de vie, quoi. Cette maison qu'il adore, qui était avant une maison secondaire. Et puis là, il se dit, je vais changer de vie, je vais aller vivre là, puis ça se passe pas comme... Mais il a un lien avec cet endroit, quoi, qui est
magique, parce qu'il est le seul à pouvoir bricoler sans qu'il y ait d'accident. Il y a vraiment un lien très fort entre la maison.
Oui. J'ai voulu... Mais vous savez, moi, je crois un peu à ces trucs-là. C'est idiot, les endroits, les maisons, il faut en prendre soin comme une personne. Il se passe des trucs avec des... Je crois que c'est... Quand on... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est peut-être une volonté, un désir aussi de ma part d'avoir ce genre de relation avec les endroits, pour créer une espèce de lien. Mais lui, c'est ça, il se passe vraiment quelque chose entre cette maison et lui, et puis malheureusement, ça se finit pas bien.
Ouais, on va pas le dire. Mais il y a beaucoup de nouvelles par tous les autres, David Thomas, paru aux éditions L'Olivier, qui aborde la relation, parce que les autres, c'est effectivement être en relation, Et il y en a qui sont drôles. Je pense à l'histoire de ces deux mecs qui sont face à face en voiture dans une route étroite. Et voilà, et aucun des deux ne veut bouger. Et bon, on verra ce que ça donne. Celle-là, elle est drôle. Et puis il y en a qui sont un peu moins drôles. Je pense à une nouvelle qui s'appelle Déversoir, qui est très émouvante aussi, de voir comment une amitié ancienne, équilibrée, peut petit à petit basculer et s'éteindre.
Ben, c'est terrible parce que c'est une très très vieille amitié, mais l'un des deux protagonistes a perdu son fils, puis ensuite a eu un accident de voiture et il ne vit. C'est vrai, c'est deux amis qui se connaissent depuis l'adolescence, enfin, ils sont comme presque frères, mais l'un des deux a une vie tellement dure que il ne finit plus que par parler de ses, voilà, de ses douleurs, de ses afflictions, de ses peines, de ses, bon. Et l'autre
est un déversoir.
Il devient le déversoir, et puis à un moment, il se dit que c'est plus possible, parce que c'était plus supportable. Il se sent emporté dans le gouffre par son ami. Bon, je pense que tout le monde a plus ou moins connu ça dans sa vie et qu'il y a un moment, il faut prendre une décision. Moi, j'ai eu un frère qui était malade, hein, qui était schizophrène, et c'est quelque chose qui m'a. J'ai pas été capable de faire parce que c'était mon frère et que je l'aimais, mais c'est quelque chose que qui m'a traversé l'esprit. Il faut se sauver soi-même. On ne sait pas comment. Quand on ne peut pas sauver les autres. Et il faut se sauver soi-même. C'est terrible d'en arriver là. C'est affreux. Mais bon. Voilà.
Alors, comme je l'évoquais au début de cet entretien, David Thomas, il y a une soixantaine de nouvelles. Alors, il n'est pas question de parler de toutes les nouvelles et il faut aussi préserver le plaisir de la découverte des textes. Il y a certains textes qui parlent de la violence aussi. Ce qui était peut-être pas le cas de manière aussi forte dans vos ouvrages précédents.
Je suis d'accord avec vous, il y a trois ou quatre textes qui évoquent la violence de notre époque ou société, je sais pas. C'était pas le cas dans mes autres recueils, mais là c'est vrai que là je sais pas, ça, je trouve que la violence est de plus en plus présente, quoi.
Oui, et c'est des textes très violents aussi.
Bien sûr, parce que il y a différents types, il y a une femme qui est très forte et qui subit une agression sexuelle, un viol, alors que c'est une femme, mais avec une force de caractère incroyable, quoi.
Elle tremble pas.
Seule, elle est très forte, quoi, très très forte. Et puis bon, voilà. Moi, j'ai été très 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 frappé par les affaires Weinstein et puis d'autres. Plus proche de nous, de femmes qui ont porté plainte contre un monsieur que je ne nommerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra, qui est un personnage public de la télévision. Je trouve ça, mais. Parce que c'est la double peine, quoi. Pour ces femmes. C'est la double peine, parce qu'il y a l'agression physique, mais il y a surtout le rapport de force. Il y a le rapport de force, et ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est. Utiliser le rapport de force sociale pour violer des femmes, enfin pour agresser des femmes, c'est doublement, vous voyez, il y a double peine, quoi. C'est que déjà subir le rapport de force, c'était dégueulasse, mais en plus pour que ça finisse comme ça, si vous voulez, il y a pas longtemps, je suis allé voir une exposition de Alice Neal à Beaubourg, et il y a un tableau qui pour moi synthétise le mieux, je ne sais plus comment se nomme le tableau, parce que c'est le nom d'une femme, et vous la voyez avec les bras ouverts comme ça, comme au-dessus de la tête, et elle a un regard très très gris, très droit, à la fois très gris et très vide, avec des bleus sur le visage, et surtout ce qui est extrêmement frappant dans ce tableau, c'est la maigreur de ses bras. Et qui était voulu par la peintre, c'est évident, pour dire regarder comme avec ces bras-là, je ne peux pas me défendre. C'est ça le rapport de force du violin. C'est que le mec, le rapport de force, le déséquilibre entre les hommes et les femmes depuis 300 000 ans qu'on est sur Terre, enfin notre race, hein, les Homo sapiens, c'est une forme. Je suis plus fort que toi, c'est tout. Je suis plus costaud. Hein. Donc il faut inverser le rapport de force. Donc la seule façon, c'est de faire des lois que les flics écoutent les. Vous voyez, bon, bref. Le rapport de force, c'est un truc auquel je suis très sensible. Moi. C'est un truc que j'aime pas du tout, ça.
Oui,
il y a un autre texte auquel je pense auquel vous faites allusion, qui est un homme qui devient totalement déshumanisé.
Janas, oui, tout à fait. Parce que là, on est du côté de la violence par celui qui la commet. Et,
oui.
Et ce texte est très difficile à lire.
Ouais, c'est très dur. Hein. Ouais. Mais c'est très dur, mais c'est un. C'est un glissement. C'est l'environnement qui déshumanise ce personnage. Pour en arriver à quelque chose d'abominable.
C'est affreux.
Bon, on ne va pas dire à toute fin, mais c'est ça, c'est vraiment une déshumanisation liée à l'environnement, quoi. Le type. Ouais. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a plus de textes de violents dans celui-là, il y a 4 ou 5 qui sont assez.
Oui, assez difficile. On va terminer sur une note un peu plus humoristique. Et en même temps, c'est une nouvelle qui dit beaucoup de choses. Ce sera la dernière qu'on va évoquer, David Thomas. C'est une nouvelle qui s'appelle « Rat mort ».
Oui.
Parce que là aussi, c'est une histoire d'agression et de tabassage. Mais elle va plus loin.
Oui, bah là, j'ai voulu... C'est presque fantastique. Ouais. C'est un peu un truc à la manière de Jacques Sternberg, là.
Qu'on a reçu de nombreuses fois.
Il s'évanouit dans la rue et puis se réveille à côté d'un rat crevé, hein, décomposé, qui a une petite conversation entre le rat et lui, ouais. Le rat mort et lui.
Comme quoi, il peut toujours y avoir pire.
Oui. Je sais pas, mais... Oui, non, ben là, c'est un peu... Voilà, c'est pour faire la blague, quoi, pour rigoler.
Oui, on va rester sur cette note-là. Ça s'appelle « Par tous les autres », c'est de David Thomas, c'est paru aux éditions de l'Olivier. En tout cas, merci et continuez.
Ah ben, merci à vous d'être fidèle, hein, c'est formidable.
Ben, oui, mais j'aime vos livres, alors surtout n'arrêtez pas.
Ah, oh, c'est gentil, ben, je vais essayer, ouais. J'ai essayé de m'accrocher.
Eh ben, rendez-vous au prochain, j'espère. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
On arrive à la fin de ce numéro d'Idéo et Débat. On se retrouve dans 2 semaines et au programme beaucoup d'auteurs, puisque nous parlerons des différents ouvrages de Myriam Leroy, Stéphanie Janicot, Philippe Besson, Michel Lèbre et Chantal Pelletier dans les semaines à venir. Tout ça, ça fait beaucoup. Ce sont des bons livres. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz. À bientôt, portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Dans ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéo et débat, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.